Quand on néglige sa jeunesse, c'est dans le fond qu'on tombe en dépression et qu'on est incapable de préparer son avenir.
Ça ne veut plus rien dire, lycéen. C'est des merdeux, des cons.
Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Mercredi 23 octobre 2025, la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport du Sénat a adopté le rapport de Laurence Garnier et Pierre-Antoine Lévy sur les relations stratégiques entre l'État et les universités. Pour les auteurs, la massification des effectifs des étudiants n'est pas régulée dans les universités françaises. La commission de la culture du Sénat parle même d'un terrible gâchis quand seulement 34% des étudiants obtiennent leur licence en 3 ans et qu'après 5 ans, 50% n'ont toujours pas obtenu leur diplôme.
Quelle indignité !
Les auteurs du rapport appellent à l'ouverture d'une réflexion sur la régulation de l'accès au premier cycle d'études universitaires et sur le rehaussement national des droits d'inscription. Dans ces conditions, peut-on supposer que les 50% d'étudiants qui n'ont pas obtenu de diplôme 5 ans après leur entrée dans l'enseignement supérieur pourraient tout bonnement ne jamais entrer à l'université si la raison de leur échec était un niveau scolaire jugé trop faible? Quelle alternative à l'université proposer à ces néo-bacheliers? Il y a dans tout ça levier pour la réussite d'un plus grand nombre d'étudiants ou chausse-trap? Et ces années passées à l'université sans obtenir de diplôme ne serviraient-elles donc à rien? On pourrait invoquer l'acquisition de culture générale, l'ouverture d'esprit et pourquoi pas l'acquisition d'un esprit critique, quand bien même l'étudiant ne validerait pas de diplôme.
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent. Aisément. Boileau.
Tiens, il se trouve qu'à Paris, le LPI, le Learning Planet Institute, proclame que il est urgent de fournir aux jeunes générations les outils nécessaires pour penser et agir afin de construire un avenir où chacun peut réaliser tout son potentiel et contribuer à relever les grands défis de notre temps, où les jeunes ont leur mot à dire dans les décisions qui les concernent. Ah ! Sans plus attendre, je quitte mon territoire et m'embarque à bord d'un train, espérant trouver quelques réponses en ce lieu.
Univox. Univox. Univox.
L'esprit critique est un concept très large.
Monica Macedo-Roué, professeure des universités en psychologie de l'éducation, Cergy Paris Université.
Qui peut inclure différentes compétences cognitives, telles que la capacité à évaluer, analyser des arguments, mais aussi des approches que l'on peut avoir vis-à-vis de la formation, de l'information, des sources d'information et de la génération de connaissances de manière générale. Par exemple, le fait d'essayer d'être clair dans la présentation de ses idées, de son raisonnement, le fait d'exprimer des croyances sur comment les connaissances scientifiques sont générées, par exemple, si elles sont stables ou si elles changent dans le temps, si elles sont sujettes à critique et comment la connaissance scientifique évolue. Donc c'est une série de compétences et d'approches personnelles sur le savoir, sur l'information que l'on peut exprimer. L'esprit critique, c'est tout ça.
Dans son ouvrage « Savoir chercher pour une éducation à l'évaluation de l'information » paru aux éditions C et F, Monica Macedo-Roué écrit que « L'éducation à l'évaluation de l'information se situe à l'intérieur d'un cadre conceptuel large, à l'intersection de plusieurs domaines et courants. Elle revendique une approche interdisciplinaire entre trois domaines connexes, sciences de l'éducation, sciences de l'information et de la communication et psychologie cognitive. » L'enseignement de l'évaluation de l'information, ça ressemble quand même un peu à l'éducation aux médias, non? Mais est-ce la même chose? Doit-on imaginer une éducation à l'esprit critique, à l'information, aux médias et pourquoi pas à l'IA?
Est-ce qu'il faut changer l'intitulé pour pouvoir inclure ces sujets? Pour moi, ils sont quelque part implicites. Je ne sais pas si, s'il convient nécessairement de changer l'intitulé éducation aux médias et à l'information, mais il est clair qu'on a besoin de traiter de ces thèmes avec les élèves et les étudiants dans la salle de classe et aussi dans des dispositifs hors école pour les sensibiliser à la nécessité d'avoir justement une vigilance épistémique vis-à-vis des informations qu'ils reçoivent à travers les réseaux, des informations qu'ils trouvent sur Internet, à la fois pour faire leurs devoirs, mais aussi pour résoudre des problèmes personnels tels que des problèmes de santé, ou encore apprendre simplement de nouvelles choses, en qui croire, comment savoir ce qui est vrai ou ce qui est faux. Tout ça, ce sont des choses qui s'apprennent en grande partie et pas nécessairement de manière spontanée. Donc il est essentiel que l'éducation aux médias et à l'information inclue ces thèmes-là.
Pas spontané, l'esprit critique? Alors ça tombe bien, l'éducation aux médias est entrée dans les programmes scolaires en 2016. Et puis l'école, le collège, le lycée, avec ses exercices de recherche documentaire, résumés de textes et autres problèmes de maths, ça semble bien être autant d'occasions d'apprendre à chercher des informations, à les trier, pour voir émerger une solution ou une idée. À condition, évidemment, que quelqu'un d'autre ne fasse pas tout le boulot à votre place. Qu'il s'agisse de votre voisin de table qui, conciliant, vous laisse copier sur lui, ou alors de ChatGPT. Monica Macedo-Rouet évoque aussi la possibilité d'affûter son esprit critique hors du système scolaire. Comment le Learning Planet Institute de Paris, où je la rencontre, pense l'accès à et la transmission du savoir?
Oui, c'est vrai que le LPI essaie de penser des lieux multiples et des acteurs multiples qui peuvent intervenir dans l'éducation. Essaie d'associer différentes compétences, déjà travailler de manière interdisciplinaire. L'évaluation de l'information, l'esprit critique sont des sujets qui sont étudiés par plusieurs disciplines. Les chercheurs de différentes disciplines s'y penchent, s'y intéressent, produisent des études, des résultats là-dessus. Donc au LPI, on essaie de voir comment ces différentes approches disciplinaires peuvent nous aider à régler le problème, à acquérir des connaissances sur ce sujet, et travaille aussi avec des acteurs de la société civile, des associations par exemple, que ce soit pour l'accompagnement des adultes, l'accompagnement d'élèves en situation de besoins spécifiques en dehors de l'école. Donc oui, c'est effectivement une voie importante à prendre en compte, et pas seulement l'école, l'éducation formelle. Alors, je suis depuis peu au LPI, donc je ne saurais pas dire exactement si l'éducation populaire fait partie aussi du vocabulaire et des acteurs qui ont été qui ont travaillé avec l'Institut. Mais personnellement, je pense que oui, bien sûr, ça fait tout son sens. L'université de tous les âges, par exemple, l'université ouverte à toutes et à tous, ce sont des lieux où les gens peuvent venir, peuvent être sensibilisés à ces sujets, tout en ayant accès à des connaissances qui ne sont peut-être pas facilement disponibles par ailleurs. Et même votre média, la radio, je pense que c'est aussi un média d'éducation populaire, d'autant plus que maintenant on a la radio en ligne, donc on a plus facilement accès à des enregistrements, on peut plus facilement chercher par sujet, donc c'est important aussi d'explorer ces canaux de diffusion de l'information et de l'éducation.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
En 2025, il semblerait bien que parmi les grands acteurs possibles de l'accès au savoir, à l'information, hors du cadre scolaire, et d'ailleurs en son sein également, doivent être comptés les réseaux sociaux et l'intelligence artificielle. Dans l'ouvrage précédemment cité, Monica Macedo-Rouet écrit que les recherches d'informations se font de plus en plus sur les médias sociaux et ou avec des assistants numériques tels Siri, Alexa ou Google Assistant qui permettent d'exprimer les requêtes directement à l'oral et de s'affranchir en partie de la lecture. La recherche académique en éducation doit étudier ces pratiques et apporter des réponses concrètes aux défis qu'elles soulèvent afin de rester pertinentes et utiles dans une société aux changements technologiques rapides. Comment Monica Macedo-Rouet voit-elle ses étudiants utiliser l'intelligence artificielle ?
Il y a plusieurs types d'usages. C'est vrai que ces derniers mois, cette dernière année, ou peut-être même ces deux dernières années, on a vu exploser un usage de l'IA pour écrire à sa place. Donc, soit parfois faire réviser un texte qui a été écrit une première fois par l'étudiant lui-même, donc un usage légitime, que je considère légitime, pour demander une aide à l'amélioration de son texte, mais parfois aussi pour produire le texte complètement de A à Z à sa place. Mais même lorsque l'on est dans le cadre d'un usage qui peut être considéré comme acceptable dans le cadre des travaux universitaires, il faut que les étudiants restent auteurs de leur texte. C'est-à-dire, le fait qu'il y ait ensuite un problème, soit d'information erronée, soit d'une source d'information qui n'a pas été correctement citée dans le texte, on ne peut pas imputer ce problème-là à l'IA. L'IA n'est pas l'auteur du texte, c'est l'étudiant qui est auteur de son texte. Donc, cette réflexion sur qui est vraiment responsable de ce qui a été écrit, elle doit être menée en dialogue avec les étudiants, parce que le raisonnement qu'il y a derrière n'est pas forcément évident pour tous, pour tous les étudiants, et c'est un sujet qu'on doit aborder, je pense, avec eux en cours, discuter, pour comprendre, par exemple, pourquoi est-ce qu'une source d'information qui est cité de façon erronée, parce que l'IA a généré une référence bibliographique qui n'existe pas, pourquoi est-ce que c'est un problème sérieux, le fait qu'on ne puisse pas retrouver l'origine de l'information parce qu'elle n'est pas correctement citée. C'est central dans la production des connaissances universitaires. Et si l'IA a fait une erreur, c'est à l'étudiant d'être vigilant, de le détecter aussi, peut-être pas tout seul dans un premier temps, il faut apprendre à faire ce type de choses-là, mais c'est lui, au final, le responsable, l'auteur de son texte.
L'utilisation de l'IA peut donc être accompagnée dans le cadre d'un travail universitaire, tant que l'étudiant ne lui délègue pas intégralement le travail de réflexion et s'assure de la qualité du travail produit. Un travail universitaire resterait donc une œuvre de l'esprit dont l'étudiant assume la responsabilité. Dans le rapport IA et enseignement supérieur, formation, structuration et appropriation par la société, produit par Frédéric Pascal, François Taddeï, Marc de Falco, Émilie-Pauline Gallier, on peut lire que de nombreux enseignants ont supprimé les travaux au domicile pour les remplacer soit par des travaux sur table, soit par des oraux. Les travaux sur table n'échappent pas totalement au risque de triche du fait de l'autorisation de conserver son téléphone portable et ou sa montre connectée dans les salles d'examen. Les professeurs observent une augmentation du nombre d'étudiants qui obtiennent de très bons résultats alors qu'ils n'ont jamais été présents en cours et en travaux dirigés, sans toutefois que ce phénomène ne soit quantifié.
Qui aurait pu prédire ?
Je pense que la plupart des étudiants, quand ils utilisent, s'ils utilisent l'IA pour faire le travail complètement à leur place,
Monica Macedo-Rouet.
Peu d'entre eux croient vraiment qu'ils sont en train d'apprendre quelque chose. C'est plus pour pouvoir choisir quelque part une solution de facilité. Après, quand ils utilisent pour essayer d'améliorer leur texte ou comme une aide à la rédaction, par exemple pour produire des résumés, il peut y avoir effectivement une illusion d'avoir appris alors qu'on a juste lu le résumé d'un texte fait par l'IA et que l'on a bien compris l'article en question, c'est pas nécessairement vrai. Et effectivement, le fait que l'IA puisse générer comme ça très rapidement et a priori efficacement, mais c'est là où le bas blesse, des résumés d'articles, ce n'est pas parce qu'on a lu le résumé qu'on a bien compris tout ce qu'il fallait, y compris parce que le but de lire un article n'est pas toujours de trouver un résumé. Parfois, on a besoin d'informations spécifiques qui sont à l'intérieur des sections de l'article qu'il faut aller chercher, et ce n'est pas dans le résumé produit par l'IA qu'on va les trouver nécessairement avec le degré de détail dont on a besoin pour savoir par exemple les détails d'une méthode, des objectifs ou du matériel utilisé dans une étude. Donc on lit des textes à l'université pour différents motifs, pour différentes raisons. Et voilà, on peut imaginer qu'en utilisant l'IA pour trouver ces informations, on va plus vite au but et avoir cette illusion de connaissance, et alors que ce n'est pas le cas. Ou en tout cas, on ne se rend pas compte quand on se trompe. Donc c'est ça le problème. Et oui, tout à fait. L'apprentissage, beaucoup d'apprentissage demande un certain effort cognitif et même moteur, mais ça demande un certain degré d'effort cognitif, et cet effort, il est nécessaire pour apprendre. Donc parfois des choses sont un peu difficiles. Évidemment, quand c'est trop difficile, ça nous mène à une surcharge cognitive, mais c'est aussi à l'enseignant d'aider l'étudiant à réguler un peu cet effort qui est fourni. L'IA peut éventuellement aider à réduire la complexité, par exemple reformuler un article scientifique qui est trop difficile à comprendre au premier abord pour l'étudiant, mais on ne peut pas rester juste là dans cette solution de facilité, parce qu'il y a des choses qu'on doit apprendre où on bénéficie de l'effort fourni dans un premier temps. Donc ce sont des stratégies de régulation de l'apprentissage qui sont aussi difficiles et pas évidentes pour les étudiants quand ils entrent à l'université, parce qu'on n'enseigne pas ce genre de choses à l'école. Mais c'est important que ces stratégies de régulation, de planification du travail qu'on va faire à l'université soient enseignées de manière plus explicite à l'école, pour qu'ils ne soient pas complètement démunis quand ils arrivent à l'université et qu'ils ont un volume très important de choses à lire. Mais oui, si on utilise l'IA pour éviter d'avoir une mauvaise note, tout simplement, ou pour éviter de commettre des erreurs sur un devoir, ça ne va pas solutionner le problème de l'apprentissage, parce qu'on aura fourni une bonne réponse, mais ce n'est pas notre réponse, donc ça ne permet pas justement de passer par ces phases de détection de l'erreur, de travail et de répétition qui sont souvent nécessaires à l'apprentissage.
Allez, courage, noble enfant, c'est ainsi qu'on s'élève vers les étoiles.
Dans un article pour The Conversation, Monica Macedo-Rouet déclare: je suis sûre que l'on gagnerait à avoir des discussions plus ouvertes avec les étudiants au sujet des usages de l'IA dans les travaux universitaires, ce que cela signifie pour eux et pour nous, enseignants et chercheurs, et comment l'on pourrait tirer parti de cette technologie incroyablement puissante sans renoncer à nos principes éthiques ni à nos ambitions de formation intellectuelle des étudiants. Ce serait un débat au nom du savoir, de l'apprentissage et de la vérité, un débat dont notre université et notre démocratie ont tant besoin. Alors, comment encourager les étudiants à se confronter à la lecture de textes parfois arides, et d'autant plus quand, comme la chercheuse le fait remarquer, les outils pour le faire manquent à l'entrée à l'université.
Univox.
C'est pas toujours très simple, mais j'essaie de les motiver par différents moyens. Par exemple, En flexibilisant quand je peux certains aspects du cours, du travail qu'il y a à faire, en leur laissant le choix, par exemple des thèmes qu'ils peuvent aborder, en imposant pas toujours un thème d'emblée, en leur donnant aussi, dans toute la mesure du possible, des stratégies, par exemple pour la lecture des articles, leur apprendre qu'une lecture, elle ne doit pas nécessairement être faite d'un article de fond en comble, ça dépend des objectifs que l'on a à la base. Donc voilà, à travers ces stratégies-là, le but c'est aussi de leur montrer que ce n'est pas, la lecture de ces articles n'est pas une tâche insurmontable et qu'on peut la rendre plus accessible à condition d'employer les bonnes stratégies de lecture.
Par ailleurs, toujours dans son ouvrage Savoir chercher pour une éducation à l'évaluation de l'information, analysant les résultats de travaux de recherche sur la capacité d'un public adulte à trouver des informations pertinentes en ligne, Monica Macedo-Roué postule que seuls les lecteurs capables de lire rapidement et ayant un bon niveau de connaissance initiale sur le contenu tiraient un bénéfice de la lecture hypertextuelle. L'Internet est aussi un facteur d'aggravation des inégalités culturelles. Donc, que se passerait-il si, par mesure d'économie, la formation était déléguée à une intelligence artificielle, sans que les étudiants aient pu se constituer une base solide de connaissances qui leur permettrait d'évaluer la pertinence des ressources proposées ou créées par une IA ou glanées sur Internet? Je cite à nouveau le rapport IA et enseignement supérieur, formation, structuration et appropriation par la société. On peut y lire que la mise en place de chatbots ou de compagnons soulève des questions, notamment sur l'intérêt de continuer à développer des supports de cours. L'intelligence artificielle générative pourrait remplacer une partie du cours en fonction des besoins des étudiants, ces compagnons personnalisés. En fonction des besoins des étudiants, ne doivent pas chercher à remplacer l'accompagnement humain, essentiel pour leur réussite, mais peuvent apporter une aide complémentaire, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils doivent être construits pour, comme leur nom l'indique, accompagner et non faire à la place des étudiants. Des réflexions se développent pour construire des chatbots qui permettent à l'étudiant de se questionner et non d'obtenir directement la réponse. Le rapport propose aussi une possibilité d'utiliser l'intelligence artificielle pour la notation ou la correction des travaux des étudiants. Développer des soutenances, donc des modalités d'évaluation à l'oral, permettrait aussi de s'assurer des connaissances réellement acquises par les étudiants. Qu'en pense Monica Macedo-Roué?
Il y a des recherches en cours sur l'apport de l'IA pour la détection ou une aide à la correction de texte. Effectivement, par exemple, des recherches dans lesquelles on essaie de regarder l'efficacité de la détection de fautes d'orthographe, par exemple, dans les textes par l'IA, pour accélérer le processus de correction, et même encore plus sur la qualité des arguments d'une dissertation ou d'un texte, d'un essai. Et à ma connaissance, les résultats ne sont pas très concluants encore. Il y a des aspects où l'IA est clairement une aide à la correction, permet de donner un feedback aussi, un retour, une correction à l'élève qui peut être utilisé par l'enseignant pour lui permettre de faire plus d'exercices, plus de corrections que ce que l'on fait normalement avec une correction manuelle. Mais il y a beaucoup encore à affiner pour que ce retour de l'IA soit fiable, et la plupart du temps ça n'empêche pas que l'enseignant doive repasser derrière quand même. Mais le but, ce serait de pouvoir rendre ce processus plus agile pour qu'on puisse le répéter plus souvent. Parce que clairement, c'est le temps que ça prend et conséquent de corriger et de donner ce retour aux étudiants, mais il est fondamental pour l'apprentissage. Je pense que c'est une bonne piste et je pense qu'on devrait avoir plus de formation à la présentation orale dans les universités, et même à l'école en France, parce qu'on ne forme pas beaucoup les élèves à s'exprimer à l'oral et c'est extrêmement important. Après, il y a une question aussi de faisabilité, parce qu'on ne peut pas clairement à l'université aujourd'hui faire passer tous les examens à l'oral à tous les étudiants. Ça prend beaucoup de temps et on n'a pas les moyens de le faire. Donc ça ne va pas remplacer complètement la pratique des devoirs écrits. Mais il est clair que l'on doit réfléchir à l'université, à nos modalités d'évaluation, parce que les devoirs, les écrits faits à la maison, même les mémoires de recherche, sans aucun contrôle de ce qui a été fait, on n'a pas moyen de détecter de manière fiable si un texte a été produit par l'IA ou pas. Les outils sont plus ou moins performants, plutôt moins que plus pour une détection de textes générés par un IA. Et donc le risque est grand qu'une partie des textes, des mémoires, soit produite en fait par l'IA, non pas par les étudiants. Donc on doit repenser nos modalités d'évaluation. L'oral est une bonne piste, mais ça ne pourra pas être utilisé systématiquement.
Dans la brève description de l'atelier auquel je participais, au Learning Planet Institute, on lisait ceci. Des études montrent que les étudiants acceptent souvent sans esprit critique les résultats générés par l'intelligence artificielle, se contentant de saisir des consignes et de copier les réponses au lieu d'utiliser l'intelligence artificielle pour construire des arguments solides. Une dépendance excessive à l'égard de l'IA pour la résolution de problèmes ou la génération de contenu risque d'encourager un apprentissage passif, ce qui contredit l'objectif de former des penseurs critiques et engagés. Que se passe-t-il si, dans cette description, je remplaçais l'IA par l'enseignant ou la religion? Je vous laisse faire l'essai. Et je termine cet enregistrement par une petite citation de Michel de Montaigne. Il y a plus à faire à interpréter les interprétations qu'à interpréter les choses, et plus de livres sur les livres que sur tout autre sujet. Nous ne faisons que nous entregloser. Tout fourmille de commentaires, d'auteurs, il en est grand cherté. Le principal et le plus fameux savoir de nos siècles, est-ce pas savoir entendre les savants? Est-ce pas la fin commune et dernière de toute étude? Nos opinions sentent les unes sur les autres. La première sert de tige à la seconde à la tierce. Nous échelons ainsi de degré en degré, et advient de là que le plus haut monté a souvent plus d'honneur que de mérite. Car il n'est monté que d'un grain sur les épaules du pénultième. Michel de Montaigne, essai 3-13. Pour cette émission, je remercie Monica Macedo-Roué, Anna-Léna Neuror et Jean-Marc Sévin. Un podcast à retrouver sur le site de Radio Campus Tours et sur les plateformes.